Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Agnès Bonfillon.
On fait un point sur l'actualité en débutant ce journal par l'exploit lyonnais face à la Juve malgré 2-1 par les Italiens. Pour les Italiens, l'OL se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est la première fois qu'un club français élimine la vieille dame en Coupe d'Europe. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour.
On parle donc victoire ce matin, mais surtout prouesse.
Oui, personne ne l'avait réalisé en France. Éliminer la Juventus Turin, c'est fait et c'est l'un des plus grands moments de l'histoire de l'OL. Une fin de match sur un fil tendu, électrique. L'OL a développé beaucoup de qualités, selon son entraîneur Rudy Garcia.
Il y a eu du talent chez nous, il y a eu de la souffrance, il y a eu un esprit de corps, il y a eu de la solidarité, il y a eu de l'intelligence aussi. On a joué avec notre cœur, mais on a aussi joué avec notre tête. On savait que pour sortir la Juve, il fallait faire l'exploit. Et même si on a perdu, franchement, je pense qu'on a mérité d'aller en quart de finale.
Un tournoi final à Lisbonne, au format particulier, des confrontations sur un match unique. Lyon a de l'appétit et ne veut pas s'arrêter là, confirme au micro du groupe Altice le gardien Anthony Lopez.
Sur un match, tout est possible. On a l'ambition d'aller loin parce que voilà, maintenant, en ayant sorti cette Juventus en 8e, on se doit de voir plus haut. Voilà. On a le droit de voir plus haut, bien sûr, même si beaucoup de personnes ne pensent pas qu'on puisse aller plus loin. Mais en tout cas, nous, on y croit dur comme fer et puis on verra bien là-bas.
Les retrouvailles contre le prestigieux Manchester City de Guardiola que les Lyonnais avaient affronté la saison dernière. Il n'avait pas connu la défaite en 2 rencontres.
Nicolas Georgerot à Turin pour RTL. Lyon rejoint donc le PSG en quart de finale. L'OL affrontera Manchester City. Ce sera samedi prochain à 21h. À Beyrouth, le dernier bilan, toujours provisoire, fait état de 154 morts après la double explosion sur le port de la capitale libanaise, 5000 blessés, des centaines de milliers de sans-abri et surtout toujours de très nombreux disparus. Les secouristes s'activent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Et pendant ce temps, le président Michel Aoun, lui, rejette toute enquête internationale sur ce drame. Il n'exclut pas une piste extérieure, Alice Moreno.
Oui, la cause de l'explosion est peut-être un missile ou une bombe. Une phrase qui instille un peu plus le doute dans l'esprit des Libanais. Juste après l'explosion, ils étaient nombreux à penser à l'attaque israélienne. Mais le début de l'enquête menée ici au Liban prouve que les autorités ont été alertées ces dernières années du stockage du dangereux nitrate d'ammonium dans le port. Alors, Michel Aoun tente-t-il de se dédouaner? Une enquête internationale compromettrait-elle ses plans? Il la refuse. À l'inverse, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Beyrouth, Melem Khalaf, plaide pour.
On ne peut pas tuer un peuple. Il faut que l'enquête, premièrement, soit une enquête sérieuse, indépendante et qui puisse être transparente et de voir qui est responsable. On ne peut pas accepter, devant l'immensité des dégâts et de la souffrance des gens, que tous les responsables montent sur scène et disent c'est pas moi, c'est l'autre.
Le bâtonnier a même déposé plainte contre X. Cet après-midi, une grande manifestation se tiendra sur la place des Martyrs au cœur de Beyrouth meurtri pour réclamer la démission du gouvernement.
Alice Moreno, notre envoyée spéciale à Beyrouth pour RTL. De son côté, Donald Trump annonce qu'il participera dimanche à une visioconférence internationale de donateurs pour venir en aide au pays. Sur place, on le disait, les recherches se poursuivent dans un paysage apocalyptique. À 9h10, nous serons en direct avec le colonel Tissier, il coordonne 55 militaires français de la sécurité civile envoyés par la France. 7h04 sur RTL, la mort d'un chauffeur routier hier près de Montauban. L'homme a refusé d'obtempérer après un contrôle de gendarmerie. Il a été tué d'un coup de feu alors qu'il percutait une voiture des militaires, Pierre Collat.
Oui, tout commence par un simple contrôle de gendarmerie, pas loin de Bressols, au sud de Montauban. Les militaires pratiquent un test salivaire pour détecter des stupéfiants sur un chauffeur de semi-remorque. Le test est positif et la situation dégénère. Alors qu'on lui demande ses papiers, le chauffeur démarre et une course-poursuite s'engage. Les gendarmes tentent d'arrêter le camion à un rond-point en jetant une herse sous ses roues. Cela n'arrête pas le chauffard qui percute une voiture des forces de l'ordre un peu plus loin. C'est là qu'un militaire ouvre le feu et touche le conducteur du camion. Le semi-remorque remorque heurte alors violemment la glissière de sécurité. Le chauffard est évacué mais décède à la suite de ses blessures quelques minutes plus tard. Âgé de 35 ans, l'homme vivait à Montauban. Il était déjà connu des forces de l'ordre. Son camion a pris feu dans l'accident et l'autoroute A20 est restée fermée plusieurs heures hier soir.
Un récit de Pierre Collat pour RTL. Le chauffard qui, en état d'ivresse, a tué un policier dans la nuit de mercredi à jeudi a été mis en examen. Il sera jugé pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mais aussi pour conduite en état d'ivresse, en récidive. Âgé de 26 ans, ce conducteur avait effectivement été déjà condamné en 2015. Autre mise en examen, celle d'un mineur, un adolescent de 16 ans, soupçonné d'avoir allumé le feu qui a ravagé la forêt d'Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques la semaine dernière. Il aurait une tendance avérée à la pyromanie. Il risque pour cela une peine de 20 ans de prison. Nouveau week-end chargé sur les routes. La journée est à nouveau classée noire dans le sens des départs, avertit Bison Futé. Benjamin Boucriche, vous allez régulièrement faire des points toute la journée sur RTL pour accompagner les auditeurs. Alors, quelle est la situation à 7h05 très précisément?
Alors, à 7h05 très précisément, il y a déjà quelques coups de frein à vous signaler sur l'A7 dans la vallée du Rhône. Bon, c'est pas encore la cohue, mais ça donne déjà peut-être le ton de votre journée. Si vous roulez vers Marseille sur cette A7, vous roulez en première pendant 16 km après la sortie 11.1 Auberive et ça coince aussi après la sortie 16 L'Oriole où il y a un accident. Un peu plus au nord sur la 6 en direction de Lyon, le trafic est saturé pendant 9 km à partir de la borne numéro 85, c'est à peu près à la hauteur de Montargis et puis quelques ralentissements aussi à vous signaler sur la 10 au nord de Bordeaux quand vous venez de Niort et sur la 9 après la sortie 27 Lunel.
Merci beaucoup Benjamin et à tout à l'heure. Nous prenons maintenant la direction de la 13. Bonjour Julien Caillard.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Vous êtes en Normandie, sur l'aire de Bosgoué, dans le sens Paris-Caen. Beaucoup de monde ou pas?
Oui, circulation fluide pour le moment sur la 13, pas de problème entre Paris et Caen, même s'il y a du monde sur cette aire d'autoroute. Certains attaquent le petit déjeuner.
Non, c'est juste une petite pause parce que monsieur commençait un petit peu à s'endormir.
Et certains donc reprennent des forces, des vacanciers comme Johan, Fatima et leurs enfants, partis de très bonne heure des Yvelines pour gagner le littoral du Calvados.
On s'est réveillé, il était 2h30, on est parti, il était 4h, parce qu'il faisait très très chaud, donc ce qu'on voulait c'était partir à la fraîche. Et puis être tranquille, tout simplement, voilà. Surtout pour les enfants, qu'ils aient pas super chaud dans la voiture. Quoi.
On va sur Courseul, donc on a à peu près 2h30, 3h de route en roulant tranquillement, donc voilà, on fait 2-3 pauses.
Pause fraîcheur indispensable aujourd'hui, car l'ennemi des vacanciers sur la route porte un nom.
La chaleur.
Et l'objectif, évidemment, c'est d'arriver au plus vite pour entamer ses vacances.
On va sortir ensemble, on va passer des bons moments ensemble. Oui, la plage aussi, on va profiter.
Voilà, profiter pour cette famille, il reste 1h30 de route.
Julien Caillard, notre reporter sur l'A13 pour RTL. Valérie nous le disait il y a un instant, il va faire très chaud aujourd'hui. 9 départements placés en alerte rouge canicule, 53 en vigilance orange. Bouchon plus chaleur ne rime pas forcément avec bonheur. Il faut surtout être prudent, Christophe Bourou. Comme toutes les semaines, en partenariat avec la prévention routière, vous nous donnez des conseils. Alors que faire pour éviter les coups de chaud?
D'abord, bien s'hydrater tout au long du trajet et surtout, ne pas rester dans la voiture lors des pauses. Il faut être particulièrement vigilant avec les enfants car dans un véhicule laissé au soleil, la température d'un petit peut augmenter 3 à 5 fois plus vite que celle d'un adulte, selon Christophe Ramon de la prévention routière.
Même si vous allez faire une course de 10 minutes, il faut absolument sortir un enfant parce que dans un habitacle exposé au soleil, la température monte extrêmement vite. Hein, elle gagne plusieurs dizaines de degrés à peine 10 minutes.
Si vous ne trouvez pas de place à l'ombre, pour éviter la surchauffe, un truc tout simple, le pare-soleil, qui permet eh bien, que votre volant évite de se transformer en radiateur et fait baisser la température de 10 degrés s'il est placé sur toutes les vitres. Une fois sur la route, là, il y a une autre astuce qui consiste à accrocher une serviette légèrement humide sur les fenêtres arrière pour aérer. On peut aussi, bien sûr, activer la clim à condition de ne pas la pousser à fond. On conseille donc un écart de 5 à 6 degrés avec l'extérieur. Pas plus, sinon gare au rhume et à la surconsommation de carburant qui peut grimper jusqu'à 20%.
Merci beaucoup Christophe Bourou pour RTL. On n'oublie pas la serviette mouillée, ça peut servir dans une voiture. Vous me disiez tout à l'heure Valérie qu'on pouvait mettre aussi ses draps dans le frigidaire.
Oui, c'est bien, on met les draps dans le frigo avant de se coucher. Et du coup, bon, ça demande à faire le lit évidemment juste avant d'aller se coucher, parfois c'est un petit peu épineux. Non, plier, ça va tout seul. Même
on n'a pas à mettre la couette en ce moment, donc ça va. On met juste le drap. Hein, voilà.
Non, mais c'est bien de se coucher dans des draps frais. C'est pas grand-chose, ça prend une heure, voilà.
Merci beaucoup, madame, pour ces conseils. Il va faire très chaud ce week-end, donc alerte canicule, on l'a dit. Notamment dans le département de la Moselle, au parc animalier de Sainte-Croix, les soigneurs s'adaptent pour éviter que les lémuriens et autres plantigrades voisins ne souffrent trop de la chaleur, Dimitri Ramelot.
Dans l'un des locaux techniques au milieu du parc, un congélateur. Christophe, le chef soigneur, s'apprête à entrer dans l'enclos des 15 lémuriens juste derrière.
Je vais récupérer les glaçons pour leur donner. Alors là, c'est essentiellement des glaçons aux fruits, des bananes et du raisin congelé.
Et les glaçons dont les espèces raffolent sont préparés mais pas distribués chaque jour pour préserver l'organisme des animaux et chacun son bloc de glace.
Les ours, on peut mélanger la viande et les légumes et les fruits. Les animaux comme les loups, par exemple, ça va être exclusivement de la viande puisque c'est exclusivement carnivore. Les primates, ça va être essentiellement des fruits, des légumes. On peut éventuellement faire juste des glaces au sirop aussi, hein, tout simplement.
Et les lémuriens se laissent facilement approcher.
Ils ont l'air d'aimer. Ils sont descendus directement de leur toit pour venir voir ce que j'avais en main et ils l'ont pris facilement. Ça se lèche les babines, effectivement. Les ours, ça peut être des caisses entières remplies de légumes, de viande, etc. avec de l'eau. Donc c'est des glaçons qui font 40 cm sur 15 ou sur 20.
Et Clément Leroux de la direction du parc cible précisément les créneaux de distribution des glaçons que les animaux n'ont pas dans la nature.
C'est en fonction de la météo et forcément sur des périodes de canicule qu'on va accentuer ces enrichissements. Parce que pour l'animal, c'est bien pour son bien-être et son équilibre. Et pour le visiteur, c'est quelque chose de ludique, avoir un animal manger un glaçon ou avoir un enrichissement et donc d'avoir des caractères assez sauvage autour de lui.
Le parc qui pratique la distribution de glaçons depuis plusieurs années pourrait prolonger les gourmandises jusqu'au mois de septembre.
Le reportage de Dimitri.